Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mademoiselle Poincom.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai le droit de pas vraiment travailler.
C'est vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher.
Ah ouais.
C'est normal. C'est laisse-moi kiffer.
Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule.
Tu voulais dire un truc, Mathis?
J'ai plus envie.
Daddy.
Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
Ça peut plus être agréable ici. Merde.
Yo, Guillo.
Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable.
Je suis idiot.
Non.
À la Réunion, à l'île Maurice.
Vous avez envie de kiffer, bah m'écoutez pas.
En direct du mois d'août 2022, on enregistre toujours dans une toute petite pièce de 2,5 m/2,5 m avec un ventilateur. Du coup, si vous entendez le ventilateur dans le micro, eh bien ne vous plaignez pas à Mathis, car on n'a pas le choix. C'est ça où vraiment on meurt avant la fin de l'épisode, je pense. Aïda, as-tu chaud ?
Oui.
Vous l'aurez entendu ici en premier, Aïda a chaud et nous avons tous chaud, mais c'est pas grave. On va passer un très bon épisode. Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 205. Je suis Mimi Hegel, l'animatrice de ce podcast.
C'était quoi ce bruit ?
Le ventilateur a fait un prout hilarant. J'espère que vous l'avez capté dans le micro de Mathis.
C'était Mathis. Oh, pardon.
Et non, comme je fais pas des prouts hilarants dans LMK, pas encore.
Non, j'espère que Ruby fera un jour des prouts hilarants dans LMK.
J'espère
Ruby,
aussi.
Ruby, le petit chien, bien sûr, et pas une personne, ce qui serait bizarre de parler de ses prouts dans un podcast où elle n'est pas, quand même. Alors que là, elle est avec nous et elle a l'air pas fâchée qu'on parle de ses flatulences. Donc elle est ravie.
Elle a l'air ravie.
Comme d'habitude, on va commencer cet épisode avec une petite question pour mieux vous connaître. Question qui m'a comme à chaque fois été inspirée par... Je regarde autour de moi 10 minutes avant de partir et je me dis zut, j'ai pas de questions. Et cette fois-ci, je me suis focalisée sur une forme de deuil actuel que je dois faire en regardant la moitié des plantes que j'ai achetées il y a 2 semaines à Plantes pour tous, un truc de bobo du 11e arrondissement et qui sont déjà décédées. Je pense qu'il faut que j'arrête de dire qu'elles sont mourantes, elles sont déjà mortes, voilà. Des plantes de plein soleil qui sont mortes, desséchées, des plantes d'ombre qui n'ont pas assez de soleil et qui sont mortes. Enfin bon, tout meurt, c'est tragique. Du coup, je voulais savoir quel échec botanique vous êtes afin de faire un dernier hommage à ces petites plantes parties trop tôt. Mathis, tu m'as dit que tu avais plein d'exemples, mais lequel te correspond le mieux ?
Oui, je pense que je suis un... Je sais pas, on va dire que je m'autodéprécie avec cette question aussi.
Oui, c'est une question sur un échec déjà. Donc.
On va dire que spontanément, j'ai pensé à mon lierre, où vraiment j'ai fait tout ce que je pouvais, parce que j'ai vraiment vu crever doucement et j'ai eu plein d'espoir. Et genre, les gens étaient
T'as
en mode.
Tu as fait de l'acharnement thérapeutique un peu.
J'ai quand même fait de l'acharnement thérapeutique sur mon lierre. J'étais en mode, allez, on va le vivre ensemble ce moment. Et tu me remercieras un jour. Et vraiment, et toi, non, je vais crever, je vais juste mourir. Et du coup, il est vraiment décédé. Et quand j'ai tenté de le rempoter la dernière fois, vraiment, j'ai jamais vu un truc aussi maigre que ses racines. C'était vraiment, vraiment très triste. Ses racines étaient rassies, c'est dire.
En plus, c'est un peu humiliant parce que le lierre, il le met toujours dans le rayon plante facile.
Exactement.
Des trucs de botanique. Et je suis là, bah, moi aussi, mon lierre est mort.
Ouais. Merci. Mais ça fait plusieurs fois que dans la rue, je vois des gens qui ont du lierre et leur lierre à chaque fois est crevé. Et je suis en mode yes. Honnêtement, ça me fait
comme
beaucoup.
Comme quoi, c'est pas si simple.
Si vous avez du lierre crevé, n'hésitez pas à l'exposer un peu dans la rue. Je vivrai un peu mieux mon échec de
voilà.
Plante.
Voilà, partagez vos fails afin qu'on se sente pas trop seul.
Merci.
Aïda, quel échec botanique es-tu ?
Je suis un échec botanique de l'ordre de l'abandon.
C'est triste.
Je pense que c'est quelque chose que tout le monde dans cette pièce pourra deviner, mais j'ai parfois des lubies qui occupent mon cerveau pendant quelques temps.
Genre
de manière
minutes.
Obsessionnelle. Donc parfois je me dis, oh là là, je vais acheter des plantes et j'en prends soin de ouf et elles sont trop belles, elles vivent. C'est pas genre...
Ah ouais, t'y arrives en plus.
J'y arrive un peu. Et elles vivent, elles sont belles, et je leur donne des noms, et je dis que c'est mes enfants. Et après j'oublie que j'ai des plantes, et après j'arrête de m'en occuper, parce que je suis passée à mon obsession suivante, qui est peut-être jouer de la batterie, ou le roller, ou parler une langue que je ne parle toujours pas. Et mes plantes meurent, voilà. Et une fois qu'elles sont mortes, j'ai aucune émotion. Parce que je suis en mode,
mes
ouais,
enfants,
bref, faut que j'aille faire autre chose. J'ai trouvé ma nouvelle lubie et je les jette à la poubelle. Voilà,
Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec des plantes mortes? Enfin, moi aussi, je les jette à la poubelle. Hein,
Est-ce que ça se composte?
Bah, j'ai pas de compost. J'en suis pas encore là, tu vois. Déjà, j'essaye de... Peut-être cette année, pour la première fois, je vais pouvoir manger une tomate que j'ai moi-même fait pousser. Ouh. Ce qui n'est pas un bon ratio, car ça fait... Depuis avril, je pense que je suis sur le même plant de tomates. Alors, il a quintuplé de volume, c'est incroyable, mais il a fait 2 tomates. Et l'autre jour, il y en a une des deux qui a éclaté, donc 50% de la prod. Et du coup, j'ai une tomate. Je suis là, ça fait 4 mois que je l'arrose tous les jours, que je donne de l'engrais une fois par semaine. Et il a fait... Et à la fin, j'aurai une tomate. C'est pas du tout rentable. J'étais là, petit légume du potager sur le balcon, mais
non, mais
pas
faut
du
qu'il
tout.
Fasse la morée dans le pré.
De quoi?
Faut que tu fasses l'amour dans le pré pour trouver un ou une candidate qui va t'aider.
Mais je peux pas parce que j'ai peur des bestioles. Du coup, je peux pas vraiment avoir un potager dans la vie.
Non, mais c'est toi l'agricultrice avec une tomate.
Quoi?
Non, mais toi, tu te présentes comme candidate de l'amour dans le pré avec tes tomates.
Avec ma tomate personnelle qui pousse sur... et mon basilic qui commence à faire un peu la gueule. Yes.
Qui pourra sauver ma tomate?
Ça crève tout le temps un basilic aussi. Pourquoi t'as des plantes impossibles?
Mais les tomates, frère, tout le monde a des tomates.
Tout le monde a
leur
pas des tomates.
Ils font des tomates et tout.
Est-ce que tu leur
parles? Et aussi,
parles
je n'ai pas beaucoup d'intérêt dans les plantes qui ne se mangent pas. Du coup, les plantes où c'est juste des fleurs et tout, je suis là, oui, bon.
Ça...
Tu vois, c'est pas très marrant. Du coup, bah, j'essaye de faire pousser des trucs qui se mangent.
C'est
la Stardew Valley vie qu'on essaye de faire.
Oui, c'est plus difficile aussi.
Bah, j'apprends. Mal, mais j'apprends. Du coup, l'abandon. L'abandon de la lubie. Attends, j'ai une question. Tu peux vraiment... Tu joues de la batterie alors que tu habites dans un appartement à Paris?
Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast? Alors en fait, il y a
une anecdote batterie.
J'ai fait une obsession sur le fait que je voulais jouer de la batterie, sur le fait que c'était l'instrument qui était fait pour moi, que ça allait être merveilleux, que ça allait être bien mieux que quand je jouais de l'orgue électronique. J'en ai tellement...
J'aime bien quand tu drops ça au fil des épisodes, tu sais, pour qu'on puisse jamais oublier.
J'en ai tellement parlé que mon mec, il a fini par m'offrir une batterie... avec un casque, là, une batterie électrique et tout, pour que je puisse en jouer
c'est
dans mon
mignon.
Appartement. C'est vraiment adorable et vraiment, je mérite rien sur Terre parce que je l'ai allumé 2 fois.
Oh non voilà. En même temps, c'est dur la batterie, mais j'arrive pas à dissocier mes mains. Genre vraiment, mon cerveau, il est là, ça marche pas.
Ben moi, je sais déjà faire parce que l'orgue, tu sais.
Ah yes. En vrai, 2 fois, c'est pas beaucoup. On décidait, ça fait 3 ans. Tu l'as revendu ou pas?
Non, parce qu'un jour je vais le faire, mais juste en ce moment j'ai pas le temps.
En ce moment,
travail,
depuis 3 ans, t'as pas le temps.
Non, mais...
C'était 3 années intenses.
Il y a eu 2 confinements, frère.
J'allais pas gêner mes voisins pendant les confinements avec le bruit de ma batterie, tu vois.
Mais t'as un casque?
Oui, mais t'entends.
Ah,
comme
d'accord.
Ça, vous avez entendu avec moi.
Okay.
Ça, tu l'entends quand même, même s'il y a un casque. Donc, pendant le confinement, je pouvais pas. Après, j'aurais pu, mais j'avais trop de travail.
Excuse-nous, Dave Grohl.
Trop de travail. C'est vraiment dur. Très bien. Anthony. Quel échec botanique es-tu maintenant qu'on a eu la confession batterie?
Bah, j'hésite entre plein de trucs parce que j'ai pas le temps d'y réfléchir, mais peut-être que je suis un échec de genre, tu sais, autant dans la vraie vie je suis hyper timide, je mets du temps à m'ouvrir et à m'exprimer émotionnellement, autant avec les plantes je suis hyper expansif et du coup j'en fais trop, genre je leur parle, je les arrose en abondance et du coup elles meurent noyées.
Et oh, donc... noyé sous le love.
C'est ça, exactement. Et en plus, je suis le cat sitter de tous mes potes. Et du coup, je vais tout le temps chez eux et je leur dis « Ouais, je peux arroser vos plantes avec grand plaisir !» Et à chaque fois, je les tue. Et du coup, tout le monde me déteste. On me dit « Oui, tu les arroses vraiment une fois en 15 jours, maximum un verre d'eau. »
Et moi, je suis là « Oui, mais vous avez soif, les bébés !»
Exactement.
« Anthony est là !»
Tous les jours, je les arrose et après, elles sont mortes. Quelle surprise. Et du coup, chez moi, les gens, ils m'offrent des bouquets de fleurs séchées ou alors des plumes de paon. Parce que justement, comme je tue toutes mes plantes, et que les fleurs, ça meurt assez vite, ce que je fais, c'est que je mets dans des vases des plumes de paon, parce que je trouve très joli. Et du coup, voilà, je serais un échec botanique, ce serait des plumes à la place des fleurs. Et sinon, mon autre échec, en tant que cat sitter, c'est quand je vais chez les gens et qu'ils m'ont pas donné de consignes pour leurs plantes, je les arrose. Sauf que parfois, c'est pas des vraies fleurs, c'est pas des vraies plantes, mais c'est des plantes en plastique.
Ah, oh, je t'aime, tu vérifies pas avant.
Maintenant, je vérifie pas, je suis trop clouless, moi.
Mais tu mets pas ton doigt dans... Non.
Non,
ah, c'est 2002, ils ont vraiment la tête dans les nuages. Hein.
Bah oui, je suis si jeune, voyons. Et du coup, ouais, non, vraiment, j'ai pas de réflexe par rapport aux plantes. Je suis vraiment pas très douée avec les plantes.
Et bah, on est 4 petits bras cassés des plantes quand même.
Ouais, c'est un peu fou. D'habitude, il y a au moins une personne sur 3 qui arrive à. Genre, qui dit ouais, moi j'ai trop la main verte, c'est un truc de ouf.
J'ai archi pas la main verte.
Je ne peux pas témoigner en la faveur des plantes, car comme il y en a qui vivent, j'ai quand même une tomate, ok? C'est bien. Et j'ai un genre de petit lierre qui se porte bien, mais mon grand lierre que mon papa m'a ramené est dead. Et je pense que je suis un échec botanique de type oxymore. contrariant. Mmh. Genre, typiquement, la plante facile à mettre en plein soleil qui n'a besoin de rien et qui meurt quand même séchée. Et où je suis là, mais j'ai fait tout ce que tu voulais. Et pourquoi ça marche pas? Parce que je pense que des fois, je suis un peu casse-couille. Et je suis un peu contradictoire et je suis un peu genre, j'ai grave envie de ça. Et après, je l'ai et je fais, ah non.
Il y a une théorie qui dit qu'elles sentent l'ambiance dans la pièce et que même si tu leur parles avec bienveillance, si tu vas pas bien, elles vont
alors,
crever.
Je leur parle pas, déjà.
Non, mais même
c'est pour ça.
Si.
Même si.
Et je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux.
Je suis au chômage, je passe tout mon temps chez moi à chiller. Elles devraient être grave détendues, mes plantes. Elles devraient être chillax, mais même mon aloe vera, elle meurt là, c'est tragique. Qui est dans le corner, vraiment. Plante pour personne de 4 ans, je pense, l'aloe vera. C'est censé être increvable.
C'est genre une colocation incompatible.
Bah, c'est dur là. On essaye de se parler, on essaye de trouver un rythme, mais c'est dur. Et c'est un peu de sa faute, tu vois, parce qu'elle a pas fait d'effort.
Oui, c'est sa faute.
C'est moi quand je suis chiante.
Peut-être c'est pas toi, c'est la plante.
En syndrome prémenstruel, du coup, je me suis inspirée de toutes ces émotions contrariées. Ok. Merci à tous pour vos réponses et pour partager vos fails de plantes, parce qu'on se sent moins seul quand même. C'est l'heure de faire le tour des commentaires. As-tu un commentaire, Mathis?
Oui, alors indirectement, mais en fait, j'ai fait des stories du coup pour la sortie du dernier épisode où on
tout
évoquait nos prouesses adolescentes. Et du coup, j'ai laissé les gens réagir à nos têtes des années 2000-2010. Oui. Et du coup, beaucoup de gens dans les commentaires qui sont ressortis. Alors, il y a une personne qui m'a dit un vrai mannequin pour Kiabi. Je ne sais pas quoi faire de cette réflexion, mais
c'est à la fois sympa et insultant.
Merci, I guess. Je ne sais pas. Et beaucoup de gens qui m'ont dit d'arrêter de faire des duck face et de mettre du gel. J'ai pris en compte ces remarques. Je vais arrêter de mettre du gel et de faire des duck face. Voilà, c'est tout. C'est tout pour mes commentaires.
Merci pour ces stories d'anthologie qui m'ont permis de montrer au monde que j'ai fait des choix capillaires douteux.
Les gens m'ont pris pour toi, du coup.
J'étais oui, mais mode, je...
juste parce qu'elle est mal coiffée, ça en fait pas mon sosie, tu vois.
Bah, je pense que les gens s'attendent à ce que t'aies eu une coupe Justin Bieber, tu vois.
J'ai eu une coupe Justin Bieber, mais je vous ai épargné ça en story, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé les photos.
Déçu.
Peut-être parce que je les ai brûlées il y a quelques années. Peut-être pas.
Ce serait pas la pire décision. Aïda, est-ce que t'as un commentaire?
Oui, tout à fait. J'ai un commentaire de Maë sur Instagram qui me dit ce que j'ai toujours voulu entendre et que personne ne m'a dit autour de cette table. par rapport à mon histoire de la batterie, notamment. Yo Aïda, petit message par rapport à ta situation de roller qui peut se transformer aussi en situation de batterie, situation de toutes les langues du monde et situation de mes lubies de tous les 3 mois. Ne culpabilise pas, je sais pas si tu peux relate, mais moi j'avais commencé à faire du skate l'année dernière de temps en temps. Puis en novembre, je me suis tordu la cheville avec fracture. L'enfer, ouais, franchement, ça doit être horrible de se tordre la cheville
soutine.
Avec une fracture.
Soutine, c'est horrible.
Ouais, toi tu l'as fait.
J'ai fait double fracture de la malléole.
Oh l'enfer. Ouais. Je me demandais si c'était du skate ou du scat, mais du coup la fracture explique ça.
C'est pourquoi j'ai dit skate en faisant du skate.
Non, non, mais ne faites pas du skate du coup.
Que ce soit une.
Quoi, quoi? Non, la musique.
Ah, il me skate.
Ah, pardon, excusez-moi.
Ok, papa, palapap. Ça là.
Ok, on reprend, ça va être dur d'enchaîner.
Puis je me suis dit que ça allait aller et que j'allais pouvoir reprendre dans 2 ou 3 mois. Résultat, je suis remontée 2 fois dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit chill sur commencer des trucs pour pas en refaire après, faut pas culpabiliser. Mon skate est maintenant perdu quelque part en Croatie. Le destin a dessiné pour moi. Bisous. Voilà. Culpabilisons pas.
Tu perds un skate en Croatie.
Je ne sais pas. J'aimerais que Maëlle me le raconte.
Peut-être qu'elle vit là-bas. J'aimerais avoir l'explication.
Peut-être qu'elle
de...
l'a prêté à quelqu'un.
Qui l'a emmené en... Mais qui amène un skate en Croatie?
Bah, un skateur croate.
Ou un skateur qui visite la Croatie. Parce qu'il est fan de Game of Thrones. J'y crois. Ok. C'est un skateur déguisé en dragon en tête, du coup. Ah, ça me fait une bonne transition, du coup je vais dire mon commentaire et après ce sera à toi Anthony, puisque j'ai un commentaire de Gédusor Premier qui a beaucoup trop bonne mémoire, puisqu'aux photos de moi au lycée, elle, la personne, a répondu « On n'a pas la photo du déguisement en Daenerys, le peuple est déçu ». En effet, mon grand moment de solitude au carnaval du lycée, solo en Daenerys, quand personne connaissait Game of Thrones, n'a pas été immortalisé. Il n'y a vraiment aucune photo qui existe.
Mais vous êtes sosie pourtant, ça doit être
flagrant
pour tout le monde.
Ouais, on se ressemble vraiment beaucoup, dis donc.
Mais t'as fait quoi du costume?
J'avais un sarouel.
Elle porte pas du tout un sarouel.
Mais alors non, mais dans le... Déjà, il n'y avait pas la série, donc il n'y avait pas l'imagerie de Daenerys qu'on a maintenant. Et en vrai, bah, c'est une meuf du désert qui, si elle porte des genres de pantalons larges, resserrés aux chevilles et tout, et en vrai, elle porte un peu des sarouels Daenerys.
Ah ouais?
Ouais, et à un moment, elle passe toute une période dans une ville où les meufs ont tout un sein à l'air. Du coup, elle a tout le temps un salaire, mais ça, ils l'ont pas mis dans la série. Je pense que l'actrice a été là. On a revu mon contrat maintenant, alors soit vous me payez très très cher, soit je vais cacher mes 2 seins. Et elle a eu bien raison. Du coup, j'avais un sarouel. En haut, je sais pas, je devais avoir un genre de tunique un peu fluide. Et j'avais surtout une longue tresse avec des clochettes dedans, puisque dans le bouquin En fait, les Dothraki, bah, quelle grosse nerd. Dans le bouquin, les Dothraki mettent une clause, donc ils se coupent jamais les cheveux et ils les portent tressés. Donc la longueur de ta tresse, c'est aussi un truc de fierté guerrière et tout. Et à chaque fois qu'ils tuent un ennemi ou qu'ils conquièrent un truc, ils ajoutent une clochette dans leurs cheveux. Et du coup, Daenerys, elle en a petit à petit en gagnant des trucs. Du coup, j'avais des clochettes dans les veuches et je pense des sandales, peut-être des tongs. Hein. Mais non, je pense pas parce que c'était en mars ou en avril. Et voilà, bon, bah, personne n'avait la ref. Moi, j'étais contente et il n'y a pas de photo. Vous le saurez.
Je suis très déçue.
Peut-être j'aimerais qu'un jour je ferai un vrai cosplay Daenerys quand j'aurai du budget et du temps. C'est-à-dire pas tout de suite.
Franchement, des clochettes dans les cheveux, ça a l'air stylé quand même.
Je crois qu'en vrai, j'avais pas trouvé de clochettes. J'avais mis des vieux grelots un peu bouffons du roi, tu vois. Enfin, bon. On avait un budget limité pour le carnaval du lycée. C'était pas.
Oui, un sarouel et des grelots. effectivement,
que des choses
un
que
peu
je
clown.
Possédais déjà chez moi. Donc le sarouel, je le portais aussi au quotidien, bien sûr.
Pourquoi t'avais des grelots? Non, c'est pour un autre épisode.
Ma sœur a une période de loisirs créatifs Cultura. Je pense que c'est ça.
Ok.
Anthony, as-tu un commentaire?
Oui, alors, il y a Marvé H20000 qui me dit... Merde, pardon, excusez-moi, il y a ma limite de temps sur Instagram qui vient de me dire de partir.
Ça te fait ça à chaque fois, en plus.
Ah bon?
Tu passes trop de temps sur
la semaine dernière.
C'est parce qu'on enregistre vers 17h et du coup, c'est un peu le moment où je termine mes 40 minutes quotidiennes. Alors, Marvé H20000 qui me dit... Bonjour, j'ai écouté le dernier LMK203 et c'est incroyable à quel point j'ai vécu la même chose que ta vilaine origin story à quelques détails près. De mémoire, sur Equideo, il y avait un système de groupes et j'étais dans plein de groupes contre l'hypophagie, à mettre des badges anti-hypophagie sur mon profil, en militant comme je peux, du haut de mes 9 ans.
Mais trop chou!
Petite précision sur les chevaux dits de réforme, ce sont majoritairement des chevaux de course qui sont pour autant assez jeunes et en très bonne santé, mais jugés pas assez performants pour la course par le propriétaire, donc envoyés en abattoir, d'où un certain problème éthique. Heureusement, cette pratique se fait de moins en moins, mais c'est toujours une certaine proportion des chevaux en abattoir. Donc voilà, merci beaucoup pour ton commentaire. Et sinon, je voulais juste les évoquer sans les lire en détail. Il y a aussi Elisa BNFS qui a fait un collage suite à notre épisode où j'en parlais. Donc voilà, elle a posté ça sur les stories de LM4 et que vous pouvez le retrouver dans les stories à la une.
Trop chou.
Il est vraiment très très beau, donc allez-y, collez, envoyez-moi les résultats, envoyez-les à LMK aussi. Peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes, c'est vraiment trop trop beau.
Grave. Ce sera peut-être la prochaine lubie d'Aïda.
Maybe, qui durera 24 heures. Et sinon, il y a Anne Godess qui m'a fait remarquer que je m'étais trompée dans la prononciation de Tuvelu, l'artiste suédoise dont je parlais dans un LMK précédent. Donc ça s'écrit T-O-V-E plus loin L-O et ça se prononce Tuvelu.
Ah,
coup,
j'aurais
voilà,
pas
Eratum.
Dit. Je crois que je disais Tuvelu. Donc vraiment, j'étais loin, quoi. Parce que le haut, il est barré en plus. Ok.
Oui, mais après, je crois qu'elle a. Enfin, j'avais vu une vidéo d'elle où elle était en mode, franchement, tout le monde dit Tovlo et elle était un peu en mode, franchement, la prononciation anglaise a pris
on
le.
On finit par faire la paix
truc,
avec.
Franchement, okay. Allez-y.
Mais... Oui, mais.
La prononciation initiale,
mais c'est bien
en effet,
d'apprendre comment on dit.
Effectivement, et surtout, il y a un clip très très drôle où elle reprend un présentateur télé en forme de marionnette qui prononce mal son nom. Le clip s'appelle Disco Tits. Et le clip est hilarant, vraiment, regardez-le. Elle le dit très bien en début de clip, comment ça se prononce. Donc voilà, la musique est géniale et le clip est génialissimement drôle. Donc écoutez, Tuvelu. Tuvelu, Mars, tu l'avais trop bien dit pendant tout le début et là, j'ai raté.
Coupé
voilà,
au montage.
Disco Tits. Et voilà, c'est tout pour mes commentaires.
Merci Anthony, merci tout le monde pour ces commentaires. Merci à vous de nous envoyer vos commentaires chaque semaine au compte Instagram @laisse-moi-kiffer ou à nos comptes Instagram personnels et respectifs que vous pouvez trouver dans la description des épisodes. Et maintenant, c'est l'heure d'un chapitre qui est depuis trop longtemps absent de ces introductions d'épisodes, puisque nous avons des anecdotes de stars, nous avons des messages boubou, et aujourd'hui, nous avons quelque chose que nous n'avons pas eu depuis très longtemps, à savoir une vie de bolos.
Oui,
tout simplement. Un ou une LM Crado qui nous raconte un moment de grosse loose dans sa vie, comme par exemple quand Anthony s'est coincé les fesses, ou l'histoire de Kalindi et du pédalo, vous l'avez chez vous.
Oui. Alors cette fois c'est Louise Knep, alors Louise tiré du bas K-N-E-I-P, bref.
Ah, qui peut-être une fellow alsacienne.
Peut-être pas,
ça sent les spätzle un peu.
Peut-être. Elle nous écrit...
J'adore les spätzle.
Moi aussi.
Elle nous écrit « Hello la Teams, hello LLM Crado, je ressens le besoin de vous partager ma vie de bolos digne d'un Gaston Lagaffe. J'ai un cheveu dans la bouche, c'est très désagréable. »
C'était pas dans le commentaire.
T'as un cheveu sur la langue, c'était genre moi aussi.
Moi, c'est pas une vie de bolosse quand même, ce serait triste.
Non, j'ai juste les cheveux dans le visage et le casque n'aide pas. Ce ah, lundi, après une nuit d'insomnie, je parviens à finalement plonger dans le sommeil à 9h du matin. C'est tard. Je me réveille donc à 12h30, déphasé mais un peu reposé. Je me prépare donc un café et bien que vivant dans un studio, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse de fortune qui n'est autre que le toit de la cuisine de mes voisins du rez-de-chaussée. Je joindrai une photo. Elle a joint une photo.
Stylé.
Plongé dans mes rêveries.
Est-ce sécure ? Est-ce
je ne sais pas. Plongé dans, dans mes rêveries, j'entends les voisins du dessus ouvrir leurs fenêtres. J'entends un petit bruit croustillant et je réalise que ma voisine est en train de vider le filtre de son aspirateur sur ma tête.
Non !
Je crie donc « Je suis en dessous !» Cette reconstitution est faite par un professionnel. Une tête apparaît à la fenêtre pour s'excuser et je lui rappelle que de toute façon que je sois là ou pas, s'ils vident leur crasse sur ma terrasse, je vais quand même devoir le nettoyer.
Oui,
leur mégot, par
abusé.
Exemple.
Tu fais ça par la fenêtre.
C'est
avec
grave
des
abusé.
Et tout.
C'est hyper chaud.
Tu vis ton aspirateur dans la poubelle. Ouais.
Bah oui, c'est ça.
Bah oui, comme tout le monde.
Pourquoi dehors ? C'était déchet. Hein.
Peut-être qu'elle l'a détesté.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas fini. Elle me dit qu'elle en fera part à sa coloc. Elle disparaît et je suis prise d'une crise d'éternuement allergique. Je décide donc de passer, hop, et je remonte pour avoir la suite. Pardon, le suspense est insoutenable. Je décide donc de passer l'aspirateur chez moi, mais rien à faire. La chute de poussière sur ma binette a eu raison de ma santé. Je n'ai plus d'antihistaminique, plus de mouchoir. Je décide de partir en mission achat. J'enfile mes chaussures.
Ah, quelle matinée de merde. T'es juste là avec ton café et tout est chiant si vite.
J'ai encore ma chaussure gauche quand on frappe à la porte. Il faut savoir que je suis du genre à écouter à ma porte avant de sortir pour être sûr que mes voisins ne sont pas dans le couloir car je suis introverti.
On se coco, we are légion.
Exceptionnellement, j'ouvre en passant et c'est la voisine du premier qui vient s'excuser. Enfin, j'ouvre en pensant. Il y a une petite faute, c'est pour ça que j'étais perdu. Et en fait, que nenni, c'est la voisine du rez-de-chaussée qui veut prendre de mes nouvelles. Hop, je rappelle. C'est difficile d'enchaîner. Parce qu'il faut que je passe d'un slide à l'autre. Je rappelle que j'ai une chaussure à un pied, une à la main, la goutte au nez et que rien ne semble la faire décamper. Je finis par lui dire que je dois y aller en montrant ma chaussure à la main. J'arrive à m'échapper, les éternuements reprenant de plus belle, si bien que je fais pipi dans ma culotte.
Mais waouh ! Ça escalade si vite.
Très mauvaise journée. Je fais mes achats puis réalise que si je rentre maintenant, ma voisine va capter que je n'étais attendu nulle part.
Attends, parce qu'elle avait fait les courses en s'étant pissant dessus.
Je pense qu'on est sur un tout petit pipi,
il faut croire. Un tout petit pipi d'éternuement, tu sais.
Un petit problème genre... de légère incontinence, tu vois.
Ça m'est jamais arrivé, je hoche la tête, mais je ne sais pas. Je me glisse dans l'immeuble, la culotte humide et le nez pincé pour ne pas éternuer. Je pose mes affaires, change de culotte et décide d'aller faire une balade dans le parc où... Ta-ta-da, où je me fais attaquer par un chien, ma phobie, son maître le
mais enfin, mais quel mardi,
il faut rester chez soi,
il faut retourner se coucher. Mais chez elle, elle est allergique maintenant à chez elle.
Ouais, c'est vrai.
Les scénaristes de ta vie t'aiment tellement pas, c'est horrible.
Le karma.
Ma phobie, son maître le retient heureusement par la laisse, mais je crois vraiment mourir de peur. Je décide de renoncer à cette journée et de rentrer chez moi.
Renonce.
Où je découvre que mon chat a renversé la poubelle. Rappelez-vous que j'avais passé l'aspirateur et s'est arraché des touffes de poils qu'elle a explosé dans tout mon studio. Bref,
quoi,
il était 17h et j'ai décidé que j'en avais fini avec cette journée. Je me suis mise au lit et je n'ai plus bougé.
Très bien.
Attention.
Il y a une suite.
Il y a une suite. J'espère que mes malheurs vous auront fait rire parce qu'ils ne sont pas finis.
Non.
Je suis réveillée à 5h du matin.
Aïda,
par
elle est là, faut arrêter la série là, c'est trop.
Vraiment,
je me projette dans ce qui se passe.
J'aurais dû faire cette vie de bolosse en mode série, en mode un volume par épisode.
Grave.
Je suis réveillée à 5h du matin par des grondements. Je me redresse et découvre au pied de mon lit une bagarre de chats. Un chat du quartier est donc rentré par ma fenêtre entrouverte pour chercher des noises à mon pauvre chat. Je vous embrasse fort, merci pour LMK.
Même le chat, il passe une journée de merde et se fait démarrer chez lui.
Après, il a renversé la poubelle. Lui,
c'est
vraiment,
vrai.
C'est le karma.
Lui aussi, le karma.
Chat.
Waouh,
le chat.
J'espère que depuis, t'arrives que des trucs trop cool vu l'accumulation de karma de merde sur 24 heures. Tu vois.
Au moins 10 ans de bonne journée, tu vois, de rien de contrariant.
Au moins.
C'est grave parce que je me dis quand il m'arrive vraiment que des trucs pourris dans une journée, genre, ça veut dire qu'il va m'arriver un truc super dans pas longtemps.
Et ça se vérifie un peu. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y crois, ça marche, quoi.
Ça s'équilibre. Merci pour cette vie de bolosse. N'hésitez pas à nous envoyer vos vies de bolosse. C'est un segment qu'on fait moins, mais parce qu'on en reçoit moins, alors qu'on adore vos galères et vos moments de fail, car on en a aussi, et ça fait toujours du bien d'en parler. C'est l'heure de passer au kiff. C'est donc l'heure du jingle. C'est toujours un jingle de Marine Normand.
Oui.
Ok, très bien. Allez, jingle.
J'adore écouter LMK. J'adore écouter LMK.
pas facile, hein. Pas facile. Très joli. Je suis partie sur une autre vibe, j'avais envie de tester autre chose.
Waouh, wow. Merci, merci Valentin.
Incroyable. Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Mon kiff est un kiff de mon âge, finalement. J'ai refusé pendant très longtemps.
Et j'étais sûre que t'allais me faire sentir boomer immédiatement quand tu m'as dit c'était quoi ton kiff. J'étais là, putain, mais désagréable.
J'ai mis vachement de temps à mettre sur TikTok. J'étais un gna gna gna, je suis plus intelligent que tout le monde. Il se trouve qu'actuellement, je suis accro à TikTok.
Bonjour Mathis.
Exactement. Voilà, donc la vie a décidé que je pourrais pas faire le fier très longtemps. Et très vite, en fait, l'algorithme de l'application se règle assez bien sur ce que vous aimez ou ce que vous ne saviez pas que vous aimez. Genre, je sais pas, des belougas en train de faire un truc chelou, je sais pas. Enfin, j'ai pas d'exemple.
Des TikToks qui crachent sur leur préparation.
Par exemple.
Ah ouais, j'ai eu ça aussi.
Quoi,
ouais.
Cette appli de mort, qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est très sexy, Mimi, je te les enverrai.
C'est absolument zinzin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs qu'on te cible, tu fais je ne savais pas que j'aimais ça, mais je suis désormais fan.
Oui,
de
je suis personnellement attaqué par ce qui se passe.
Voilà. Donc évidemment, au début, j'avais beaucoup de puppy content, j'ai toujours du puppy content, ce que je suis très content de voir, mais
j'avais
ça se mélange.
C'est des chiots.
Puppy, c'est des chiots. Oui, du coup.
J'avais compris, papy.
Dans ce... Alors, ah, moi, en non. vrai, les vidéos de monsieur qui sont émus parce que, genre, ils apprennent qu'ils vont être papy, ça marche sur moi. Plus que les soldats qui reviennent du front, tu vois.
Ah ouais, non, flemme. Oh putain, quelle horreur. Le ouais. TikTok américain,
ah,
il est terrible.
Bah, ça, il y avait sur YouTube, il y avait partout, tu vois. Chez soldats qui reviennent à l'aéroport et leur famille. Et genre, ils retrouvent. J'aime. Juste des fois, ça m'émeut quand c'est leur chien.
Ah, j'avoue, mais avec les animaux, tu peux rien faire.
Mais c'est les bons logos, tu vois. C'est mais. Trop... Personne de droite.
C'est vrai, absolument. Et donc TikTok a fini par capter que ça me faisait gaulerie, les Britanniques qui faisaient du stand-up, que j'étais assez politisé et que je suivais pas mal de trucs dans ce sens-là et que j'ai liké des trucs. Ce qui fait que mon kiff aujourd'hui, c'est les TikTok du Shadow Cabinet. Donc le Shadow Cabinet, c'est le gouvernement, comment on dit ça ? Je crois que c'est le gouvernement fantôme, c'est ça la traduction, au Royaume-Uni. C'est en fait la réplique du gouvernement, mais avec le parti adverse. En gros, en France, par exemple, si vous avez la majorité d'Emmanuel Macron, bah, vous prenez le premier parti adverse. Et en fait, chaque membre du parti va occuper un ministère et donc être le ministre fantôme des transports, par exemple.
Mais c'est un vrai... Je comprends pas,
c'est un vrai truc.
Truc.
Ça existe vraiment, le Shadow
Cabinet.
C'est
vraiment leur rôle, quoi.
Exactement. Et du coup, leur but, c'est de vraiment essayer de voir ce qui est fait au jour le jour par le gouvernement britannique et être en mode, OK, en tant que ministre fantôme des transports, si je reprends mon exemple, vous avez fait telle loi, en fait, c'est complètement con parce qu'on a regardé ça, etc. Et vraiment, ils se dévouent à cette tâche-là. Et ils sont désignés,
ils
du coup, par le...
Oui. Ils font le miroir de
Exactement.
Ce que fait le membre du gouvernement en se disant, moi, à ta place, j'aurais fait ceci ou cela. Et
voilà.
Moi, j'aurais pas fait comme ça. Hein.
J'adore. J'aimerais trop être ça.
Voilà. Et donc, on est sur un parti
juste
d'opposition.
Juger ce que font les gens.
Exactement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça a été le bordel au Royaume-Uni par rapport à la démission de Boris Johnson. Enfin, démission,
ouais.
Voilà. Et donc, c'est encore le Conservative Party qui essaie de s'organiser en mode « Ah, quelle succession on met, on est des branques, etc. » C'est un grand moment. Et donc, il y a des discours qui sont souvent mis sur TikTok par les personnalités qui les font, genre les députés. Et donc, j'ai des députés travaillistes du Shadow Cabinet qui font des grands discours. Et je regarde ça pendant des plombes. Et je comprends pas tout. Mais déjà, leurs accents sont incroyables parce que c'est des
mais
gens qui viennent de partout dans le Royaume-Uni.
J'adore tes façons de détendre, quoi. Il y a les films de Michel Haneke et regarder des membres fantômes du gouvernement fantôme britannique, tu vois. Quoi.
Et je trouve ça incroyable parce que, genre, ils sont en train d'allumer le Conservative Party. Et je suis en mode, c'est pas chez moi, mais franchement, on s'en fout. Allez-y, défoncez-les. Et genre, en plus, tu sais, c'est les Britanniques. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le House of Parliament. Donc, là où il y a les débats, donc
ça
c'est l'endroit où il y a Big
ouf,
Ben
là,
et tout. Bah oui, et puis en fait ils ont les petits bancs verts là, face à face. Donc en gros il y a un espèce de Jean-Michel au milieu qui fait hey,
order, order.
Voilà.
Et pas du tout order.
Et des deux côtés, bah il y a
j'ai
un côté avec.
J'ai vraiment fait 3 ans de fac pour comprendre
voilà.
La politique britannique et j'ai tout oublié. C'est dramatique.
Donc il y a la team Tories, donc les conservateurs qui sont d'un côté et en face vous avez les travaillistes. C'est assez binaire. Et du côté des travaillistes, en gros quand la personne est en train de faire un discours, il y a ce truc que j'adore chez les Britanniques où il y a les couillons derrière en train de faire yeah, en approbation.
Ils font
discours.
Les bacs.
Et c'est génial. Mais enfin, je trouve que c'est des rap contenders, le truc. C'est genre. Et c'est vraiment assez drôle. Et en même temps, du coup, évidemment, il y a des vrais problèmes de société qui sont abordés, etc. Et c'est chouette de voir que la gauche n'est pas morte au Royaume-Uni, parce que c'est quand même un pays qui est extrêmement avancé dans le libéralisme. Et moi, perso, quand j'habitais à Londres, j'avais un peu ce truc de mais la gauche n'existe pas dans ce pays ou quoi ? Parce que tout était vraiment extrêmement abouti en termes de capitalisme et même dans les esprits des gens, je trouvais. Et du coup, il y a des vrais discours, des vraies belles envolées, etc. Et je suis vraiment en mode waouh. Et des fois, je la regarde plusieurs fois et je suis vraiment en mode nerd.
Gros nerd.
Gros nerd.
Quand c'est moi qui dis gros nerd, c'est que c'est vraiment.
Et voilà, je me suis dit c'était assez drôle pour partager ça avec vous. Donc voilà, si vous êtes un peu curieux, curieuse, vous en avez sur YouTube évidemment, mais vous avez ces retransmissions, vous le saurez, sur TikTok. Comme beaucoup de contenus qui sont recyclés sur TikTok, il faut le dire, genre il y a des vidéos des déchiens qui circulent là-dessus. Les incroyable. Déchiens, ça date un petit peu quand même.
Imagine, t'es sur TikTok et là tu vois genre Shirley et Dino, tu vois, un vieux Shirley et Dino de 2002.
C'est tout à fait possible.
Oh là là, incroyable. Je vais me faire un compte TikTok juste pour faire du clout avec les vieux trucs des émissions Laurent Ruquier et de Patrick incroyable. Sébastien.
Voilà, c'est ça mon kiff. Il n'y a pas grand chose d'autre
c'est
à dire.
C'est incroyable, c'est absurde, c'est inédit, c'est TikTok finalement.
Yeah.
C'est toi, quoi.
Je propose qu'on fasse ça régulièrement pendant les kiffs des gens.
On devrait trop faire ça.
Oui.
Yeah. Merci Mathis pour ce kiff atypique. Aïda, c'est quoi ton kiff? Se faire de la batterie?
Non, c'est pas faire de la batterie
aujourd'hui.
Et boum,
parce qu'on peut pas créer. On n'est pas obligé de culpabiliser. C'est Marie qui l'a dit dans mes DM.
C'est vrai. J'ai dit que je remontais pas à cheval après être tombée à cheval. Donc, tu vois. Et je
ouais, c'est vrai.
Pas.
C'est vrai, mais.
Métaphore, mais en fait, non.
Mais après, t'es montée sur le cheval, quoi.
Ouais, mais. Bon,
si j'étais tombée de ma batterie, peut-être que j'aurais une excuse pour plus en faire. Mais c'est un peu. Bref. Non mais moi je voulais commencer par rebondir sur l'algorithme de TikTok parce que j'ai beaucoup d'amour pour cet algorithme qui m'a fait découvrir plein d'aspects de ma personnalité différents, des kinks que je ne savais pas que j'avais, plein de choses très deep.
Tu dois citer des exemples, tu peux pas juste lancer les trucs un peu comme ça. Bah, par exemple j'ai plein de drag queens, ça je le savais, mais dans ce que je savais pas, bah, j'ai pas d'exemple.
Ah tu vois, donc moi non plus, bref.
Vous êtes pas marrant. Pire dialogue.
Toujours est-il.
Vous n'osez pas les dire en fait.
Voilà.
J'arrive pas à y penser. Quand j'en trouverai un, mais... je le redirai dans cette émission.
Ok.
Là tout de suite, bref, c'était une première étape pour arriver à une chute à la fin de cette phrase qui était que jusqu'ici, donc, on était en phase de lune de miel avec l'algorithme TikTok. Et en fait, hier ou avant-hier, je sais plus, l'algorithme a décidé de me proposer des comptes qui faisaient des fan cams. Donc des vidéos montées par des fans avec des paillettes et de la musique et tout, de gens qui shippaient. Le truc de ship, c'est genre les gens qui écrivent des fanfictions et qui disent « Ah là là, j'ai trop envie de mettre telle personne et telle autre personne en couple. » Tu ships des gens et tu les mets en couple de ouf, même quand ces personnes sont déjà en couple dans leur vie. Et donc là, j'ai ça.
Voir que dans la fiction, elles sont de la même famille. Car dans Supernatural, par exemple, ce sont deux frères qui font des road trips pour aller tuer des monstres. Il y avait énormément de gens qui shippaient Dean et Sam.
Mais
et
ils sont frères.
C'est deux frères, en fait, c'est
dégueulasse. C'est gênant.
Ok, il y a beaucoup de queerbaiting dans Supernatural, mais pas entre les deux frères. C'est dégueulasse. Bref. Ils avaient fait un épisode méta où ils étaient. En gros, il y avait un trickster, parenthèse supernaturel. C'est un des meilleurs épisodes qui brise le quatrième mur de la télé. Il est trop malin.
C'est en quoi gros, un trickster?
Un trickster, c'était Loki en gros. Donc le personnage de Loki dans la mythologie scandinave. Un trickster, c'est un gars qui joue des tours aux gens. Tu vois, c'est une divinité qui s'amuse à te faire des mauvais tours,
farces.
Des tricks. Et ce trickster les envoyait envoyait les deux frères dans plein de genres de dimensions différentes. Et il les envoyait dans une dimension où c'était notre dimension, où il y avait une série télé sur leurs aventures et où ils découvraient qu'il y avait des gens qui les shippaient. Ils étaient là, mais c'est dégueulasse, on est frères, pourquoi les gens ils font ça? Et ils rencontraient les autres acteurs du show et tout, c'était trop malin. Bref, voilà, Supernatural, c'est un peu marrant. Voilà, donc les shippes, ma passion.
Eh bien, l'algorithme TikTok ne shippe pas des frères et sœurs entre eux, mais il me met sur des fan-shipping de Emmanuel Macron et Brigitte Macron.
Non.
Donc j'ai commencé à tomber sur des vidéos
est-ce
avec des filtres à paillettes.
Ce serait pas d'être de droite?
Non, vraiment pas.
Bah, c'est TikTok, tu mets ça.
Mais c'est la faille absolue dans l'algorithme.
Non, TikTok, c'est.
C'est. Bah, vraiment pas, parce que j'ai rien ressenti, à part.
Mais peut-être que
j'ai cassé
tu
mon
regardes
après,
avec
quoi.
Une fascination un peu dégoûtée et morbide, et bah, il dit ah, c'est bien, ça la capte, tu vois. Genre, elle scrolle pas quand elle tombe là-dessus, elle s'arrête.
Oui. Bah, justement.
Coup, il dit, ah, elle aime bien.
J'ai essayé de scroller super vite quand c'est arrivé la première fois. J'étais là, ah! Au début, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était, parce que ça arrive souvent qu'on monte des vidéos de Macron, et en général, il y a des trucs d'extrême gauche dessus avec écrit. Bref.
C'est ça,
des trucs pas légaux.
C'est les vidéos qui insultent Emmanuel Macron.
Et donc, je pensais qu'il allait avoir une chute d'extrême gauche ou une chute un peu marrante, quoi.
Et non.
Et en fait, non, la chute, c'était vraiment genre, oh là là, regardez comme ils sont mignons. Quand Emmanuel Macron, il dit à Brigitte, faut que je change de pantalon et tout. Si, c'était des Français.
Ah. En fait, TikTok, t'as pas montré une vidéo, il t'a montré un miroir.
Ah ouais,
et quand je regarde dans mon miroir, je vois Emmanuel Macron. puis
c'est
avec
dur comme info.
Bah ouais, et puis tu sais, il y avait tous les codes de la fanfic avec le participe passé qui n'existe pas, genre je demanda et tout. Donc j'avais vraiment envie de regarder, mais je voulais pas.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Voilà, c'était ma rupture avec TikTok. Du coup, depuis, j'ouvre plus l'application, j'ai trop peur.
C'est cursed.
Stop. TikTok is cursed.
Tu peux gagner contre l'algorithme. Va chercher hashtag extrême gauche et tout, comme ça, l'algorithme, il va se réentraîner.
Non, et moi, je cherche des fancams de Philippe Poutou sur TikTok et j'en trouve pas.
Envoyez à Aïda en DM les meilleurs fancams de Philippe Poutou sur TikTok.
N'hésitez pas, surtout s'il a sa casquette CGT Astras.
Putain. Très spécifique. Il y a des fancams de Benoît Hamon qui prenait aussi.
Ça, tout le monde
ça doit se trouver
des fancams.
Nerd.
C'est quoi ton kiff, Aïda? Parce que je pense pas que c'est les TikTok sur Brigitte et Emmanuel Macron.
Non, c'était mon anti-kiff que j'ai glissé au début. Mon kiff, c'est un kiff que j'avais vraiment jusqu'à ce matin et maintenant j'ai changé d'avis, mais j'ai pas d'autres kiffs, du coup je vais le dire quand même.
Tu le présentes bien déjà, tu le vends bien.
Mon kiff, c'est passer l'été à Paris.
Ok.
J'avais élaboré toute une grande théorie sur le fait que c'était vraiment super de travailler l'été et partir en vacances après, notamment parce que en été, il y a moins de monde au bureau, c'est de manière générale un peu plus chill, genre en été tout le monde est en mode allez, c'est pas très grave si genre tu finis pas tel truc aujourd'hui, tu pourras le finir demain et tout. Donc moi, j'étais vraiment en mode mais c'est vraiment super de passer l'été à travailler quand on peut être hyper détente et au moment où c'est la rentrée et tout le monde speed, bah hop, tu pars en vacances et comme ça, t'as hacké le game.
Oui.
Et t'es vraiment un génie.
Et tu pars hors saison, donc c'est moins cher. Et
tu pars hors saison, c'est moins cher. Il y a moins de gens. C'est génial. T'es bronzé plus longtemps. Bref, voilà. J'ai vraiment. J'attends mon micro sans réaction.
Ouais, c'est pour ça, ouais. Okay,
il est revenu.
Non, non, non.
Non.
J'allais hurler.
He's back. Donc voilà, je me disais que c'était vraiment super. Et en effet, j'ai vraiment kiffé mes premières semaines d'été à Paris. Il y a moins de monde dans les musées. C'est pour ça que mon kiff de la semaine dernière, c'était un musée. Il y a plein de gens qu'on n'a pas le temps de voir le reste de l'année qui sont là. Et tu te dis, ah bah c'est le mois d'août, il n'y a personne à Paris. Et si on allait boire un verre et tout.
Faute de mieux. Le sous-texte, c'est
mais
vraiment
non
ça.
Mais non, mais des fois, on n'a pas le temps.
Parce qu'on voit des gens qu'on préfère voir.
Non, mais pas forcément qu'on préfère.
Il y a plus de gens
mais
disponibles, quoi. Donc il faut plus faire des choix.
Bah là, il ne reste plus que Macron et Brigitte, quoi. T'as plus que...
Non, mais en fait, c'est vrai, tout le monde est en vacances. Donc tu finis par... Enfin, t'as plein de gens qui ne sont pas dispo. Donc tu finis par avoir des gens que tu vois pas forcément d'habitude. Moi je crois en cette théorie.
Et puis des fois c'est pas que le fait que tu les aimes moins, c'est des gens dont t'es moins proche, tu vois. Genre si je suis moins proche de Bidule, Bidule est moins proche de moi. La semaine en général on a d'autres gens qu'on préfère voir, mais là on est en mode oh et si on travaillait notre relation parce qu'on a du temps pour ça. Et quand on se voit c'est super.
Bisous à Bidule.
Bisous à Bidule, je l'adore. Mais
Bidule de nos vies.
Non mais voilà, j'étais très contente, j'en ai profité pour me balader dans plein d'endroits où j'ai pas l'habitude de me balader parce que c'est l'été donc il faut faire des trucs pas comme le reste de l'année, sinon t'as vraiment l'impression de pas être en vacances du tout et tu te fais chier et t'es jaloux des stories Instagram des autres gens, donc tu te dis tiens et si j'allais me promener dans telle forêt qui a chié mais où je suis jamais allée de ma vie.
Tu regardes la forêt Kalindi à la plage en Grèce et tu fais ah ouais bah,
non,
moi, j'allais
bloqué,
voir le canal
bloqué.
De bloquer Kalindi en été c'est une bonne décision pour si vous êtes un peu semard dans la vie, si vous avez vite le seum. N'hésitez pas à la bloquer, voilà. Vous irez bien sûr la débloquer en septembre hein, pour la rentrée. Mais oui, c'est la Grèce, quoi. Mais
non, c'est pas vrai, j'ai pas bloqué Kalindi, en vrai. Mais j'ai envie.
Ceci dit, sur les forêts pétées à côté de Paris, il y a plein de TikTok d'Américains qui pensent qu'ils ont plus découvert Paris que les Parisiens et qui arrivent en mode « Oh, places you absolutely have to go near Paris !» Et genre, ils te suggèrent en mode « Ah, regardez Maison Lafitte !» Et t'es vraiment
ouais, grave.
Bah, c'est Maison Lafitte, quoi.
Ah ouais, j'ai vu ce TikTok où ils sont là. Non, ouais. Mais si vous allez à Paris, il y a un endroit caché et tout. Pour ça, prenez la ligne G. Et t'es là, mais gros, on va pas aller à Maison Lafitte.
Alors,
ça n'a aucun sens.
Jamais, aucun
c'est vraiment
intérêt.
Ça. Désolé, Maison Lafitte.
Sorry. Ouais.
Hi, Maison Lafitte.
On vous adore quand même. Non. Mais on viendra pas.
Il n'y aura pas de LMK en live à Maison Lafitte.
Jamais.
Sauf si l'office de tourisme de Maison Lafitte a du budget. Auquel cas, appelez-nous.
Invitez-nous.
On vous s'adore. En tout cas, voilà, c'était mon gros kiff ces dernières semaines d'aller me balader partout, de faire plein de trucs que j'avais pas l'habitude de faire et de profiter de l'absence d'activité ou du calme à Paris. Là, aujourd'hui, il fait 35 degrés, j'en ai marre. Et ça me saoule de ouf. C'est pas du tout mon kiff. Mes vacances, c'est le 29 août. On n'est même pas le 15, j'en peux plus.
On est le 10.
J'ai envie que ça s'arrête.
Non, on est le 11.
J'ai envie de me casser de cette ville maudite.
C'est le piège avec cette je super retire mon idée kiff. Vraiment hyper maligne de prendre ses vacances en septembre. C'est que tu dois taper vraiment juillet, août, tout est là. Mais putain, c'est loin en fait.
Je me sentais trop spéciale. Je pensais que j'étais plus intelligente que tout le monde. En fait, ça gave de ouf.
Mais tu vas grave kiffer tes vacances en septembre, promis.
Non mais quoi qu'il arrive, ce sera trop bien. Les deux semaines, ça va passer vite, mais...
Tu nous manqueras.
Il fait chaud, quoi.
Il fait chaud, quoi.
Voilà, c'était mon kiff regretté.
Kiff,
mais...
très convaincant.
Mais ce fut un kiff, en vrai. Si j'avais posé mes vacances le 20 août, j'aurais rien regretté.
Mon kiff, c'est Paris l'été, mais jusqu'au début août.
C'est juste partir en vacances en août, en fait, ton kiff, du coup. Merci, Aïda, pour ce kiff très râleur. Mes préférés, finalement. Comment
sorry.
C'est très high d'accord, c'est très on-brand. Anthony, c'est quoi ton kiff ?
Juste avant de le dire, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Aïda, car je pars très rarement, même si je ne suis qu'en 2002, donc finalement je travaille depuis peu, je pars très rarement en vacances, pendant les vacances de Noël, là où tout le monde part, et pendant les vacances estivales, les grandes vacances pour les étudiants et les apprenants, etc. Genre, les élèves, pardon.
Les apprenants.
Tes camarades, épicène. Quoi.
Moi, j'avais compris.
Oui, pardon, j'ai fait des études de français langue étrangère et du coup j'avais des cours de didactique et de pédagogie. On disait les apprenants et apprenantes.
Oh wow!
Anyway, et du coup, genre, moi j'aime trop partir en dehors des vacances scolaires parce que comme ça t'as pas les gosses. Mais oui. Les gosses c'est adorable, c'est mignon et tout, mais quand c'est pas les tiens, c'est un peu moins
beaucoup,
cool.
Beaucoup.
Et qu'il y en a beaucoup, carré. beaucoup qui t'empêchent de profiter de tes vacances. Et voilà. Et j'ai la chance d'avoir la plupart de mes amis qui n'ont pas encore d'enfants. Du coup, j'aime trop partir en dehors des vacances scolaires et avoir profité de des espaces sans d'autres gens, sans trop de gens et sans trop d'enfants. Même si
ouais,
les enfants
grave.
Ont le droit d'exister, évidemment. Car derrière les enfants, il y a souvent plus de mères que de pères. Bref, donc, vive les vacances en septembre-octobre et en janvier-février plutôt que en décembre et en juillet-août. Et mon kiff, c'est une excellente question.
Attends, je laisse si tu veux.
Non, mon kiff, c'est... Ah, t'as transmis les kiffs. Ok, non, c'est
ouais,
bon, c'est...
Oui, mais tu sais, toujours c'est... dans cette idée de... On va pas faire 4 séries télé, tu vois, donc...
Ouais, non, mais c'est bon, je me souviens, c'est vivre en colocation.
C'est vrai.
Ah,
c'est faire famille autrement.
Ah, c'est beau. Oh là là, il dit les choses
comme
bien.
Dans les Sims, un foyer.
J'ai pas la ref.
Les Sims, ils disaient créer un foyer, pas créer une famille. Et du coup, tu pouvais avoir des gens qui étaient colocs, tu pouvais avoir des gens qui étaient en couple, tu pouvais avoir des gens qui avaient un enfant. Enfin, tu pouvais tout faire en fait.
Bah justement,
c'était chouette.
Au moment où sortira cet épisode, la pige viendra de sortir. Ça fait quelques semaines que j'ai en tête un papier sur des gens qui seraient meilleurs amis dans la vie et décideraient de se marier de manière platonique pour juste genre. Économiser sur leurs impôts, sur s'assurer une retraite relativement confortable ou des choses comme ça, et décider de le faire du coup officiellement aux yeux de la loi. Même si en vrai, je suis pas en train d'encourager cette pratique car en fait elle est illégale, donc vous lirez entre les lignes, mais en tout cas, ça c'est un mariage blanc quoi aux yeux de la loi, de se marier entre amis. Et donc voilà, mais bon, ce que je voulais dire, c'est donc vous trouverez sur mademoiselle.com.
Il y a déjà beaucoup de gens qui se marient, ils sont même pas potes, tu vois. Donc, enfin, il y a des gens qui se marient, et là peut-être vous aimez pas vraiment traîner ensemble, donc
ouais,
des amis se marier, tu vois. Enfin,
oui, oui.
Bref,
bon, ça c'est, il y a des lois que la loi ignore, que le cœur existe, que la raison, je sais pas quoi.
Hein, fait, c'était bien dit, Anthony.
C'est le titre de cet épisode.
Je dédicace cette expression ratée à Soraya.
Désolée, Soraya.
Tu as fait une Sorayade.
C'était à peu près ton level. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur mademoiselle.com, il y a un article là-dessus sur des BFF qui se marient. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est un truc que j'ai failli faire avec mon ancienne colocataire qui s'appelle Hélène, qui se marie à la fin du mois. D'ailleurs.
Pas avec toi, du coup.
Pas avec moi, du coup. Et alors qu'on devait faire des enfants ensemble et se marier, bref. Donc c'est une femme hétéra, cis, que j'adore, que j'aime énormément. Et on a vécu en colocation pendant un an, mais c'était archi méga intense. Et c'était de l'amour platonique. Mais genre, on avait chacun notre chambre, mais on dormait dans le même lit, en fait. Parce qu'on s'aimait trop. Et genre, on passait notre vie ensemble. On sortait ensemble. On était assortis. On se faisait des dates et tout. On allait aux soirées. Genre, on arrivait main dans la main, habillés pareil, coordonnés et tout. Enfin, c'était n'importe quoi, mais on s'adorait. Et on se parlait trop. Et c'était génialissime. Et c'était une trop belle période de ma vie. Et en fait, ça te permet aussi... Enfin, en tout cas, personnellement, elle comme moi, ça nous a permis aussi d'être de meilleurs partenaires de vie, même avec nos partenaires romantiques, sexuels, plus tard. Parce qu'on a beaucoup plus appris sur nous-mêmes, sur notre autonomie, sur ce qu'on attendait de quelqu'un d'autre, qui prenait vraiment soin de nous. Pas juste dans un but de séduction. Qui prenait soin de nous parce qu'il nous aime, en fait. De manière sincère, authentique, et non dans un but transactionnel. Genre, je veux
pas
avoir du
pécho.
Sexe avec toi. Pas pour pécho. Et du coup, c'était assez extraordinaire et libérateur, émancipateur avec elle. Et après cette colocation qui s'est très bien passée, à laquelle on a mis un terme parce qu'elle a trouvé l'homme de sa vie avec qui elle se marie. Enfin, quelle l'autre idée. Homme de sa vie après moi, évidemment. Non, je rigole. Je suis pas du tout jaloux, en vrai, je l'adore. Je suis le témoin de leur mariage, bref.
My God. Hâte de voir l'outfit. Hâte de voir la story.
Il y en aura quatre, chérie.
J'avoue, la meuf parle au singulier. On est où, là?
Et ce que je voulais dire, c'est que juste après, je me suis dit, bah, faut que je me remette en colocation. C'est trop une belle expérience et tout. Et je voulais une meuf, mais finalement, j'étais en colocation avec un mec, cis, gay. J'avais
qui était aussi un pote à la base ou que t'as trouvé en
tout.
Mode
J'ai trouvé de manière random sur chez Queer Paris, qui est un groupe Facebook de gens qui cherchent des plans colocation. Il y a aucun sous-texte sexuel là-dedans. Et du coup, j'ai emmené avec ce type et ça se passe très bien. On a un peu fait du trauma bonding au bout d'une heure de colocation ensemble.
Une heure et un verre de chardonnay, ça part.
Il y avait même pas encore d'alcool. Donc c'est te dire à quel point quand il y a d'alcool, c'est.
Ça a kické vite.
Ça a kické très très vite et ça se passe très très bien, merveilleusement bien. Et c'est vraiment un truc. Parfois, je me dis, mais ça m'empêche pas d'être en couple. Ça m'empêcherait pas d'être en couple. Ce que je veux dire par là, c'est que limite ça. Enfin, même si le couple c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie en général, hein, j'en ai déjà parlé dans l'MK je crois, mais ce que je veux dire c'est que ça permet aussi d'être un meilleur partenaire pour soi-même, d'être en colocation, ça permet de se respecter mieux soi-même aussi, ça peut aider en tout cas quand, personnellement je suis quelqu'un de très solitaire, très autonome et très introverti, mais vivre en colocation ça me sort juste ce qu'il faut de ma zone de confort et juste ce qu'il faut de mes mauvaises habitudes où je vais avoir tendance à oublier de manger, à avoir la flemme de faire le ménage, à prioriser mes amis, à être tout le temps dehors et tout. Et là, vivre en coloc, ça me pousse aussi à faire du ménage aussi pour l'autre, mais du coup, j'en profite également à faire à manger pour nous deux. Bon, en l'occurrence, pas vraiment, mais en tout cas, ça me pousse à manger à heure fixe parce que lui aussi, en fait, il mange à heure fixe. Et bref, plein de trucs aussi. On fait du yoga ensemble, on a fait du sport ensemble à des moments aussi. Et il y a encore pas de sous-texte sexuel là-dedans. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment extraordinaire la colocation. Et je trouve que c'est sous-côté. Et aussi, ce que ça m'apprend personnellement, j'avais pas besoin qu'on me l'apprenne, mais ça me le rappelle au quotidien, c'est que l'amitié, c'est sous-côté. Genre, l'amitié, c'est vraiment
oui,
extraordinaire.
On met beaucoup l'amour sur un piédestal comme voilà. La relation la plus épanouissante de la vie, alors que les amis, c'est super quand même.
Totalement. Et c'est grave. Aussi. Une famille, ce que je veux dire, c'est qu'une colocation, ça peut très bien se passer au point que ça devienne une forme de famille. Il n'y a pas nécessairement à avoir besoin d'animaux, de plantes ou d'enfants. Rien à mention inutile pour faire famille. Même deux personnes qui s'aiment dans un même foyer, pour moi, ça fait une famille.
Et du coup, ils devraient pouvoir se marier, voilà. Sans qu'on fasse chier en mode, non, c'est pas un vrai mariage et tout. Laissez-les se marier, même s'ils sont potes, c'est pas grave.
Mais ouais, l'expression même de mariage blanc, historiquement, ça vient de ça, c'est il n'y a pas de tache de sang sur les draps, donc le mariage est blanc.
Il n'a pas été consommé.
Ah. Exactement. Et du coup, c'est hyper excluant pour les personnes asexuelles comme expression. Après, c'est une expression dans les textes de loi. Aujourd'hui, on parle de mariage de complaisance. Okay. Notamment parce que, justement, c'est trop. Ça craint comme expression mariage blanc, wesh.
Grave.
Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est vive la colocation, vive l'amitié. C'est aussi beau que l'amour romantique. L'amitié est une forme d'amour et valorisons davantage nos amitiés, wesh.
Tout à fait. La colocation, c'est l'enfer pour moi. C'est vraiment ma phobie, ton délire de on dort dans le même lit. Y a tout le temps quelqu'un chez moi et tout. Je suis là. Ah moi aussi, je suis plutôt introvertie et solitaire. Et mes expériences. Alors, ma coloc avec ma petite sœur, c'est très bien passé, mais c'est vraiment ma sœur, quoi. On a toujours vécu ensemble. Mes autres colocs, j'étais juste. C'est aller de vaguement neutre à j'ai envie de partir, quoi. J'ai pas envie d'être là, quoi. C'est avoir des gens chez moi. Enfin, du coup, j'ai reproduit écouter à la porte pour vérifier qu'il n'y a pas de voisin dans le couloir parce que j'ai pas envie de parler quand je sors de chez moi, quand je sors de ma chambre. Donc vraiment, j'étais un ours, quoi. Ça m'a pas du tout aidé à prendre soin de moi parce que j'avais pas envie de voir des gens. Donc je me suis terrée dans ma chambre. J'ai regardé 5 saisons de Supernatural à l'époque et j'ai parlé à personne parce que je sais pas possible pour moi d'avoir des gens chez moi et c'est aussi pour ça que c'était un gros pari d'emménager avec mon mec, quoi. Donc,
c'est une colocation. De combien de personnes, pardon?
La première que j'ai fait, on était que deux, et c'était une pote de fac où je me suis dit, on est potes, genre on s'entend bien, mais on n'est pas amis, donc c'est moins risqué, tu vois, on va pas gâcher une super amitié si ça se passe mal. Et on peut faire chacune notre vie et tout, et en même temps, c'est cool de passer une soirée ensemble, manger un bout, regarder un film. Et ça, c'est pas. Enfin, ça. Genre, juste, j'aurais été mieux toute seule, quoi. Ça m'a pas apporté de positif, alors je pense pas que ça m'a apporté de négatif non plus, mais j'étais juste en mode ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas que cette personne soit là. On passe pas des moments, on bonde de pas, c'est juste partager un espace juste s'arranger, quoi, c'était juste la logistique. Et en même temps, j'ai fait aucun effort parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de parler à des gens quand je rentre chez moi le soir, ce qui est un problème pour créer du lien, du coup. Pour moi, recharger mes batteries, c'est vraiment solo. Donc avoir des gens chez moi, c'est. non merci. Mais là, j'ai fait 3-4 jours de coloc avec cette chère Soraya qui est venue loger chez moi et c'était grave cool de la voir le soir, de la voir le matin et tout. Mais voilà, c'était 3-4 jours quoi. On sait qu'à la fin, elle rentre chez elle. Mmh. Je sais pas si je ferais une coloc à 100% avec une amie, j'aurais trop peur qu'on s'embrouille.
Ouais, je comprends, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est sûrement pas fait pour tout le monde, évidemment. Moi, il s'avère que ça a grave fonctionné pour moi. Ça m'a été à mieux me respecter, à moins me négliger, à mieux prendre soin de moi. Et en fait, après, c'est aussi parce que j'ai une forte tendance à m'épanouir à travers le soin des autres. Et genre là, par exemple, on parlait de variole du singe dans l'épisode précédent, il me semble. Et du coup, bah, quand je me suis fait vacciner, j'étais là, ouais, toi, tu prends rendez-vous comme ça et tout. Vas-y, c'est tel numéro et tout. Tu me dis quand tu l'as fait et tout. Appelle ton mec, comme ça, tu vas avec lui et ça fera un super date et tout.
Quel daron, je t'aime trop.
Voilà, j'étais grave, je suis grave comme ça avec lui. Enfin, on débriefe chacun de ses rendez-vous. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est, franchement, c'est trop cool. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une petite famille, quoi, un petit noyau familial.
Et tu disais, ça t'empêchera pas d'être en couple. J'ai connu des gens à Paris. Qui, alors c'était un truc assez atypique, mais du coup ça se fait, qui en gros avait fait une coloc à plusieurs couples, où ils avaient, du coup ça leur permettait d'avoir un très grand appart, genre 200 mètres carrés, et chaque couple avait sa chambre, bon il n'y avait pas besoin d'une chambre par personne, puisqu'a priori les couples s'adorent ensemble, et il y avait plusieurs pièces, il y avait un grand bureau, enfin plusieurs pièces à vivre communes, et du coup bah, c'est aussi parce qu'à Paris les loyers sont très chers, on va pas se mentir, mais ça permettait à, voilà, disons trois couples, qui se connaissaient déjà d'avant, de partager un espace, et en fait, bah, quand ça se séparait, soit les deux du couple allaient trouver chacun leur propre appart, soit il y avait une des deux personnes qui préférait partir, et puis l'autre pouvait assumer une part de loyer plus importante. C'était des gens quand même relativement aisés. C'est pas un truc de prolo-prolo, tu vois, je pense que c'est un peu instable, mais c'est peut-être un truc qui peut se faire, quoi. C'est pas parce que, enfin, tu vois, y a pas que avec. Enfin, emménager avec son partenaire de vie, ça veut pas forcément dire arrêter d'être en coloc. Peut-être que tu peux faire les deux. I don't know. Personnellement, c'est un double enfer pour moi d'imaginer ça, mais il y a des gens qui ça va bien, quoi.
Non, en vrai, je peux pas faire ça, a priori.
Non, c'est bon, c'est quand même.
C'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin, non, vivre en colocation avec une personne, c'est très bien. Et si je suis plus en colocation avec ce type, j'irai vivre seul. Okay. Et si je me casse avec quelqu'un, tant mieux. Mais si je me casse pas avec quelqu'un, seul, ça irait très bien. Mais en tout cas, la colocation, je m'en faisais tout un truc sur une montagne. Et en fait, c'est vraiment formidable. Enfin, ça m'a énormément appris sur moi, sur aussi placer des limites, des boundaries. Oui, savoir exprimer ce que tu veux et justement notamment le temps solo, le temps de recharger ses batteries quand t'es introverti, bah ça c'est un truc que j'ai aussi appris à doser, à maîtriser, à exprimer et pour que ça se passe bien et se respecter soi-même c'est le plus important pour que ça se passe bien en colocation quoi. Et en général c'est une leçon de vie ce que je veux dire. Ça a été une leçon de vie pour moi.
Oui, bah beaucoup c'est le vivre ensemble quoi. Ça t'apprend à vivre ensemble et c'est pour ça que ça se fait beaucoup aussi au début de la vie d'adulte quand tu débutes un peu dans faire les courses et le ménage
oui,
et respecter l'espace des autres bien sûr c'est parce que tu es tout jeune. Merci Anthony pour ce kiff extrêmement angoissant.
Un beau kiff.
Mais tant mieux que. Vraiment, j'ai palpité un peu. Mais tant mieux que ça t'épanouisse, écoute, c'est l'important.
Et toi, c'est quoi ton kiff?
Alors, moi, mon kiff, c'est un truc que j'ai bingé sur Netflix, les gars. C'était vraiment. C'est le nouveau Fyre Festival. Et j'ai adoré les documentaires sur le Fyre Festival. Ça s'appelle en français. Donc, c'est un docu de 3 épisodes. Ça s'appelle Chaos d'Anthologie Woodstock 99. Parce que c'est sur le festival de Woodstock de 1999.
Celui dont on parle pas beaucoup.
Non, mais qui s'est très mal passé. Donc, contexte, en 1969, il y a le festival de Woodstock, un monument de la culture musicale, populaire, hippie et de la contre-culture américaine qui est devenu très représentatif de toute cette période de la fin des années 60 et du début des années 70 pour une partie des États-Unis. Il y avait toutes les stars, Jimi Hendrix, blablabla, Flower Power, des gens partout, de tous les styles, qui vivent ensemble, qui se font du yoga et qui prennent des champignons et c'est top, quoi. Et 25 ans après, ils en ont fait un apparemment en 94 qui s'est assez mal passé, mais principalement pour des problèmes de météo. Il a fait une météo dégueulasse et du coup, bah, festival dans la boue, c'est pas dingue.
Et Love Green 2022,
voilà,
on est là.
Voilà, Love Green 2022, si vous avez vu les stories de Matisse à l'époque, vous savez qu'il a frôlé la noyade en essayant de revenir du festival. Il y avait
je m'en suis bien sorti pour le coup par rapport à d'autres gens.
Ouais, t'as pas fait de kitesurf pour rentrer.
Non, voilà.
Et en 99, pour les 30 ans de Woodstock, ils se sont dit, avec notamment un des organisateurs du OG Woodstock, on va refaire un Woodstock qui est à la fois un écho du premier avec des stars un peu historiques et Willie Nelson qui est un chanteur country très âgé des stars représentatives de ce qui se passe de nos jours. Donc on est en 99, il y a Korn, il y a Limp Bizkit, il y a Kid Rock, il y a vraiment il y a un peu du gros son. Et c'est une catastrophe.
ça se passe hyper mal, il y a beaucoup trop de gens, il n'y a pas assez de logistique, il y a des décisions totalement connes qui ont été prises de type on va vendre l'eau plus cher que la bière, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
What?
Du coup, bah, tout le monde est bourré, il n'y a pas assez d'eau. Ils ont des... Alors, il y a des trucs un peu dégueulasses avec les toilettes de festival, parce que les toilettes de festival, c'est déjà de base l'enfer. Mmh. Mais quand il y a 250 000 de personnes, il y a 250 000 personnes. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui s'infiltrent, donc on monte à 300 000. Et ça dure 3 jours. Et pendant 3 jours, l'énergie fait que monter. Les gens sont de plus en plus en gueule de bois. Il fait chaud comme pas permis. Et en fait, ils se sont dit, on va trouver un lieu qui a déjà des infrastructures en dur. Et du coup, ils ont trouvé une ancienne base navale, non aérienne, militaire, où du coup, bah, effectivement, il y avait des grands hangars où ils pouvaient bah, mettre des scènes et des trucs comme ça. Mais du coup, c'est que du tarmac en béton quasiment. Donc oh,
il fait chaud
c'est
ouf.
Du béton, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau, ou alors elle est très chère. C'est que des ados qui arrivent, qui ont déjà payé $150. Et c'est vraiment, ils interviewent du coup dans le docu des gens qui y étaient. Il y avait une petite mimsouille, alors c'est une autre époque, hein, mais elle avait 14 ans, s'il te plaît, un appareil dentaire et tout. Et elle est là-dedans, je suis là, mais tu vas mourir, meuf, c'est pas. Qu'est-ce que tu fous là à 14 ans? Il y a une go qui a l'air d'être maintenant une membre fière de la communauté LGBT qui dit qu'elle a grandi dans une famille hyper conservatrice, hyper religieuse. Elle est arrivée à Woodstock en 99, elle a pris de l'acide, elle a appelé sa maman pour lui dire « Tout va bien, c'est super !» Et elle a passé 3 jours sous acide, donc ça partait. Voilà, les gens ils venaient aussi se retourner bien la gueule. Et, mais voilà, il n'y a pas d'ombre, les gens ils n'ont pas assez d'argent pour payer de la bouffe, de l'eau et tout. Plus ça va, moins il y a de stock, plus ils montent les prix. Vraiment, sur la fin, la bouteille d'eau, elle coûte 12 ou 20 dollars, tu vois. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe ?
États-Unis.
Les gens, ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils ont plus de thunes, ils ont plus de cash. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment... Le documentaire est très clair sur... Il y a deux choses qui font que ça a foiré. Le premier, c'est le capitalisme. C'est vraiment l'avarice. C'est qu'ils ont tout fait pour couper les coûts et économiser des thunes et maximiser les profits. Donc, bah, par exemple, ils ont sous-traité tout ce qui est bouffe et boisson. Donc, c'était les sous-traitants qui pouvaient fixer les prix comme ils voulaient. Il n'y avait pas assez d'équipement, de toilettes, de machin. Ils ont sous-traité tout ce qui est poubelle, enfin, hygiène du lieu. Donc, les gars, ils venaient pas. Ou alors, des fois, les éboueurs, ils venaient et ils étaient là. Cool, on est à Woodstock. Et ils faisaient pas du tout leur travail.
Ils prenaient de l'acide.
Donc, parce que, bah, ils ont pris le moins cher, quoi. Et du coup, bah, y avait jour 1, il y a des poubelles, des ordures partout. Donc, les gens, ils sont là au milieu des ordures et tout. Et donc, il y avait ce vrai problème de capitalisme qui fait que, à force de vouloir maximiser les profits, ils ont pas respecté le public. Et le public, ça l'a énervé. Et en fait, sur la fin, il était en mode fuck Woodstock, on va tout ruiner, on va arracher. Il y a des tours énormes avec des speakers, enfin, de festivals. Mmh. Les gars, c'est des animaux, ils arrachent le truc, ils sont sur la tour en train de danser pour la faire tomber. Il y a l'équipe audio
personnes,
qui dit on a besoin d'être exfiltrés, il faut nous sortir de là parce que la tour, elle est au milieu de la foule de 200 000 personnes. Et les gars, ils sont là, ils sont en train de détruire la tour et on est dedans, il faut nous sortir de là. Et la sécurité, elle est là, bah, on peut pas parce qu'on est en train de les retenir de l'autre côté. Enfin, en vrai, c'est badant. Quand t'es un peu agoraphobe, c'est ultra badant. Donc il y a cet aspect-là qui fait que le public n'était pas respecté et que bah, du coup il s'est énervé et en fait t'as pas envie de respecter un lieu qui te respecte pas, tu vois. Et notamment bah, il y a une ancienne, donc une femme plus âgée qui était au premier Woodstock et qui avait en fait c'est elle qui avait organisé les cuisines gratuites du premier Woodstock pour que tout le monde soit nourri. Donc là elle y était à ce troisième Woodstock. Et elle dit, en fait, quand j'ai vu les ordures, j'ai dit ça c'est bon, Woodstock c'est perdu quoi. Tu peux pas traiter des gamins, parce qu'en plus là c'est des gamins quoi, c'est... The kids are angry parce que vraiment vous les respectez pas, vous les traitez mal, ils sont au milieu des ordures et des toilettes horribles et ils doivent se ruiner pour acheter de l'eau, enfin ils sont pas bien quoi, vous prenez pas soin d'eux. Et le deuxième truc qui a ruiné Woodstock c'est, et aussi dans cette idée de capitalisme en fait... Les organisateurs, qui sont des mecs plutôt âgés, des bons boomers,
yes,
ne se sont pas vraiment renseignés sur c'est quoi ces groupes à la mode qu'ils invitent. Donc ils se rendent pas compte que Korn, devant 250 000 personnes qui sont chauffées à bloc, Korn c'est vénère en fait,
bah,
c'est
ouais,
pas
ouais.
John Baez. Hein, c'est une
petite incitation à la violence quoi.
Tout, ouais. les pogo à un quart de million de personnes. Et il y a le chanteur de Korn qui est interviewé dedans et qui dit mais en fait t'arrives sur cette scène, t'es là, je sais pas si ce festival va bien se passer, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc c'est un bordel, la sécurité c'était des bénévoles, vraiment ils leur ont dit on vous donne un t-shirt jaune et on vous paye $100 et comme ça vous allez à Woodstock, mais c'est pas du tout des gens qui sont formés à la sécurité de 200 000 personnes. Il y avait un rave hangar, où du coup il y avait un hangar où c'était juste une rave toute la nuit, donc ça s'arrêtait jamais. Et t'es là, est-ce une bonne idée de donner une rave party all night long à ces gens? À un moment, il y a des gars, ils volent une bagnole, ils la font entrer dans le rave en guerre pendant qu'il y a Fatboy Slim qui joue. Enfin, c'est un bordel.
Oh,
et le deuxième truc, et du coup c'est important de le dire, qui a niqué Woodstock, c'est le patriarcat, puisqu'il s'appesantissent pas mal sur des problèmes de violence sexuelle envers les meufs.
Évidemment.
Donc il y avait eu, il y a quelques années,
des enquêtes sur les violences sexuelles en festival en France, notamment au Hellfest, etc. Là, on est en 99, il n'y a pas eu MeToo ni rien, et il y a beaucoup, beaucoup, voilà, ça s'appesantit beaucoup sur les meufs qui se font agresser, qui se font toucher, qui se font déshabiller, et cet esprit de frat boys, où il y a, enfin, si vous voyez un peu les fans de Limp Bizkit des années 99-2000 qui ont 20 ans, et qui sont en plus extrêmement bourrés et déshydratés, ils ne sont pas en mode le consentement, c'est important. Donc voilà, ça peut être trigger, ça parle de viol, si jamais c'est sensible pour vous, vous le saurez. Mais c'est hyper intéressant de voir ce recul sur on n'a pas pris soin du public et on n'a pas pris soin des meufs du public, et du coup, c'était un échec, mais un échec médiatique, un échec... Enfin, il y avait... À la fin, je vous le dis, c'est le chaos. Le titre américain, c'est Trainwreck, Woodstock 99, et c'est vraiment... regarder un carambolage au ralenti, quoi. Et tout le monde témoigne et dit, en fait, il y a un moment où tu te rends compte que ça part en couille et que c'est trop tard. Ils sont 300 000. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop tard, quoi. C'est pas possible. Ils demandent aux gens du groupe, genre, il y a les Red Hot, et ils demandent aux gars des Red Hot, est-ce que tu peux monter sur scène, les calmer, parce que nous, ils nous écoutent pas. Et le mec des Red Hot, il fait, je pense pas qu'ils vont m'écouter. Je pense que là, ils sont chauds. Et du coup, ils chantent une chanson qui s'appelle Fire pendant que les gars, ils foutent le feu. C'est un bordel, mais c'est trop bien. C'est 3 épisodes de 45 minutes. Ça se binge très bien, et c'est hyper intéressant pour voir à quel point ça a merdé, et à quel point les vieux cons qui maximisent les profits, ils ont complètement gâché tout l'esprit d'un truc qui était quand même hyper cool. Et en vrai, l'ancien de Woodstock, l'ancien organisateur de Woodstock qui a organisé celui-là, il est clairement dans la team connard et il prend pas trop ses responsabilités. Donc, tu vois aussi les flower power de l'époque.
Ouais, grave, qui sont devenus.
Soit tu meurs jeune de gauche, soit tu vis assez longtemps pour devenir riche et de droite, je pense. Parce qu'il a l'air d'être dans un très beau range. Voilà, c'est Woodstock 99 sur Netflix.
Ça a l'air trop bien.
C'est
ouais, je veux trop voir ça.
Mais voilà, c'est quand même, il y a des sujets durs qui sont abordés dedans. Mais c'est trop bien et ça donne trop envie d'aller sur Wikipédia. Lire tous les détails, et il y a beaucoup de détails qui sont pas dans le docu où j'étais là mais c'est encore pire, waouh,
ouais,
et oui. Incroyable. C'est la fin de cet épisode, oui, de Laisse-moi kiffer, marqué au saut de la chaleur mais aussi, oui, de la bonne humeur. Bravo, oui, tout le monde, toujours. On a tenu bon,
félicitations.
On va maintenant aller en terrasse boire une petite mousse fraîche. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine.
Gros
et attendez
bisous.
Si je vous dis pas de conneries, quand vous écoutez cet épisode, la semaine prochaine, c'est l'épisode sur Twitch, tout à fait. Donc on se retrouve jeudi 25 août à 20h en direct sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Ça va être super.
C'est vrai.
Des bisous.
Des bisous, des bisous, bye bye.
Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.